Merci. D'abord, un premier mot pour m'excuser, vous demander d'excuser pour mon absence d'hier. Je n'ai pas pu être là, alors que je suis censé être un des co-organisateurs de ce colloque, donc c'est un peu désordre, mais je n'ai pas pu faire autrement. Et je voulais aussi, deuxième mot, remercier chaleureusement Elodie Djordjevic, Sabina Tortorella et Mathilde Unger qui ont organisé ce colloque. Je suis un co-organisateur de jure, mais pas du tout de facto. Et si ce colloque a une certaine tenue, et je crois qu'il a une certaine tenue, enfin jusqu'à aujourd'hui en tout cas, c'est grâce à elle. Je voulais donc les remercier très chaleureusement pour le travail effectué qui prouve qu'on avait tout à fait raison de leur faire confiance. Donc je vais traiter d'un sujet peut-être un peu étrange. Y a-t-il une théorie de l'institutionnalisation chez Jelinek, Georg Jelinek, donc l'auteur d'une fameuse, chez les juristes, théorie générale de l'État au début de ce siècle, à la fin du siècle dernier. Et pourquoi c'est étrange? Parce qu'apparemment, s'il y a bien un auteur qu'on aurait du mal à ranger parmi ceux qui s'intéresseraient à l'institution, c'est bien Jelinek qui, dans sa théorie générale de l'État, critique ce qu'il appelle les théories collectivistes et notamment l'État organique de Otto Guericke. Et a priori, on fait souvent un lien entre la théorie de l'institution de Ouriou, de Romano, et une conception plutôt organique de l'État. Il serait surprenant que Jelinek, qui a donc une théorie reposant sur des fondements kantiens, s'intéresse à l'institution. Alors évidemment, si j'ai traité de ce sujet, c'est parce que j'estime qu'il y a peut-être chez Jelinek des éléments d'une théorie, alors j'ai dit de l'institutionnalisation, mais de l'institution, et j'ai cru voir dans une partie de son œuvre, évidemment, seulement des analogies assez fortes avec un autre auteur qui est assez éloigné, qui est Georges Burdeau. Et donc, c'est un peu cette curiosité, cette rencontre de lecture qui m'a fait penser, alors au départ, je n'étais pas prévu dans le planning, qu'il y avait peut-être un intérêt à évoquer cette question, et j'avais proposé à Elodie de m'insérer dans le programme, et elle a accepté, et c'est la raison pour laquelle je vais essayer d'expliquer ce qu'il y a peut-être chez Jelinek qui relève d'une théorie de l'institutionnalisation. L'institutionnalisation, ça s'entend d'abord dans un sens courant, dans deux sens différents, c'est l'idée qu'il y a une action d'institutionnaliser quelque chose, et institutionnaliser, ça veut dire donner un caractère permanent, ou ça veut dire aussi, chez les juristes, l'expression qu'on trouve dans le trésor de la langue française, c'est une expression, à mon avis, assez synthétique et assez juste. Pour les juristes, surtout en droit constitutionnel, qui est ma discipline, mais qui est aussi celle de Jelinek, l'institutionnalisation est un processus par lequel le pouvoir est dissocié des individus qu'il exerce et incorporé dans l'institution étatique. Il me semble ici qu'il y a dans cette définition quelque chose de fondamental pour comprendre ce qu'est une institution et en tout cas le mouvement d'institutionnalisation. C'est ce mouvement de différenciation entre l'État, personne abstraite, corps collectif, et les gouvernants, les individus qui agissent au nom et pour le compte de l'État. Et de ce point de vue, quand on définit ainsi l'institutionnalisation, on bute, alors le trésor de la langue française cite Vedel, parce qu'on cite tout le temps Vedel, à tort, parce qu'en général il n'a pas pensé ces questions, il a repris des idées d'autrui, et autrui en l'occurrence c'est Georges Burdeau. Et je voudrais juste dans cette introduction vous dire quelques mots de Georges Burdeau, mais rassurez-vous, je traiterai Jelinek, je ne serai pas complètement hors sujet, je traiterai Burdeau parce que Burdeau vraiment a été celui qui a tenté de penser systématiquement l'État comme une institution. Et notamment dans son deuxième volume, deuxième tome de son monumental traité de sciences politiques, qui faisait 6 tomes au début et 7 tomes, puis qui est arrivé jusqu'à 11 tomes. Peu de gens ont lu les 11 tomes, moi le premier. Alors, dans ce livre sur l'État, dans le traité de sciences politiques, Burdeau considère que l'État est une institution et il dit. L'État est formé lorsque le pouvoir a son siège non plus dans un homme, mais dans une institution. Ce résultat est acquis à la suite d'une opération juridique que j'appelle l'institutionnalisation du pouvoir. Alors, ce qui est un peu curieux, c'est qu'il ne définit pas immédiatement l'institutionnalisation. Il fait, comme souvent d'ailleurs, un détour par l'histoire, et il estime que le moment de basculement, le moment où l'État moderne apparaît, dit-il, c'est lorsque, je cite à nouveau Burdeau, quand le pouvoir n'est plus considéré comme une propriété personnelle du chef qu'il exerce, mais que ce pouvoir est transféré à l'institution étatique. Et donc, Burdeau va essayer de penser l'État avec cette institutionnalisation du pouvoir. Selon lui, c'est l'État qui rend possible l'institutionnalisation en s'offrant comme titulaire du pouvoir institutionnalisé. Et dans son traité, dans ce volume sur l'État, Burdeau va en réalité opposer deux concepts. L'un qui est le pouvoir individualisé, personnel, exercé par des chefs, des individus, et puis le pouvoir institutionnalisé qui est l'État. Et il faut comprendre dans sa description l'idée qu'il y a une progression, il y a un progrès juridique dans l'abstraction que représente l'État. Et c'est un peu, en partie, ce qu'il veut faire. Alors, je passe sur d'autres développements, mais qui sont importants, évidemment. Si Burdeau conçoit le pouvoir comme une institution, c'est parce qu'il reprend aussi à Auriou l'idée d'une idée de droit. Il a parlé de l'idée de droit, mais c'est quand même une idée qu'il emprunte directement à Auriou. Et donc, évidemment, il y a dans cette conception du pouvoir des traces assez fortes de Maurice Auriou. Mais ce qui me paraît pertinent, en tout cas pour mon propos d'aujourd'hui, c'est de montrer que Burdeau met largement l'accent dans sa théorie de l'institutionnalisation du pouvoir sur cette différenciation entre les gouvernants, les agents de l'État et l'État lui-même, en expliquant que l'institutionnalisation, c'est placer le pouvoir, je cite encore Burdeau, en dehors des gouvernants, dans une institution capable d'en soutenir sans chanceler les surhumaines propriétés. Et il ajoute, alors, dans cette dernière hypothèse, les chefs ne seront plus que des agents et une juste proportion s'introduira entre ce qu'ils peuvent faire et ce qu'on peut attendre d'un homme. Fin de la citation. À la place de la divinisation des chefs, dit-il, il y aura l'institutionnalisation du pouvoir. Et la thèse que je voudrais ici défendre, plutôt une hypothèse, la preuve n'est pas encore complètement faite, c'est que si on désigne l'institutionnalisation du pouvoir comme ce processus essentiel de différenciation entre l'État et les agents, eh bien, si on part de cette hypothèse, il me semble que chez Jelinek, il y a des éléments qui vont exactement dans le même sens que Georges Burdeau, même si, évidemment, Jelinek écrit avant Burdeau et il a évidemment pensé cette question indépendamment de Georges Burdeau. Et j'ai le soupçon que Burdeau s'est inspiré, sans le dire, de Jelinek. Et donc, pour essayer de montrer cette idée d'une institutionnalisation du pouvoir chez Jelinek, je vais essayer de rappeler les points essentiels de sa théorie de l'État. Et d'une manière générale, l'idée qui permet, selon moi, de démontrer cette thèse, c'est l'idée que derrière ce qu'on appelle la théorie de l'organe, des organes de l'État, qui est souvent associée à Jelinek, derrière cette théorie, il y a en réalité une théorie de l'institutionnalisation. Et donc, je vais procéder en trois temps. Le point de départ, c'est cette différenciation que fait Jelinek entre l'État et les organes de l'État. Ensuite, j'essaierai d'expliquer une chose assez compliquée, je trouve, et qui risque à l'oral de passer assez mal, je vous préviens tout de suite. C'est l'organe et le support de l'État, en allemand « Organträger », qui est difficile à traduire, voire impossible à traduire. Et puis après, je finirai sur le surgissement de la notion de compétence et, à partir de la notion de compétence, montrer sa portée institutionnelle. Le point de départ, donc, c'est l'État et les organes de l'État, cette différenciation. Pour comprendre, évidemment, ce que dit Jelinek, il faut revenir à sa théorie de l'État. Quelle est la nature juridique de l'État, selon Jelinek? Et la thèse de Jelinek, qui démontre dans un chapitre entier sur la nature de l'État, sa thèse est assez simple, c'est de dire que l'État est susceptible de deux concepts, deux conceptions possibles, deux perspectives, un concept social et un concept juridique. Mais la thèse centrale, celle sur laquelle il insiste, c'est de dire que l'État est d'abord et avant tout un sujet de droit, une personne juridique. En allemand, c'est Rechtssubjekt, donc l'État n'est ni un objet de droit, ni un rapport de droit, mais un sujet de droit. Et d'une certaine manière, ce que Jelinek va faire, c'est qu'il va donner une théorie juridique à sa théorie sociale de l'État. La théorie sociale de l'État, c'est de dire, à la suite de Gierke, que l'État est une corporation, un être corporatif, un être collectif, et il va transposer cette analyse au point de vue juridique en décrivant l'État comme une corporation juridique. Et la définition qu'il donne, d'ailleurs, de l'État, pardon, la conception sociale, c'est pas le mot corporation, c'est le mot groupement. Le grand mot, le mot qui structure toute la théorie de Jelinek, c'est le mot de Gierke, c'est le mot en allemand de Verband, association traduit en français, mais on devrait traduire plutôt par groupement ou groupe. Et donc, Jelinek transfère ce concept de groupement en un concept juridique qui est le concept de corporation, d'être juridique. Et il définit l'État comme une corporation d'une nation ou une corporation territoriale dotée originairement de la puissance de domination. Ce qu'il veut dire par là, ça veut dire que l'État, en fait, il se définit par deux éléments cumulatifs. L'élément premier, qu'on cite toujours, qui est la souveraineté. Puissance originaire de domination, c'est la souveraineté. Il n'utilise pas le mot, mais ça correspond au concept. Et en revanche, deuxième élément, qui est l'idée de corporation. Et on retrouve exactement cette dualité qui, à mon avis, caractérise l'État. L'État est une personne juridique et c'est une personne souveraine. On retrouve ça chez Karen Malberg, mais avec une différence sensible, c'est que Karen Malberg n'utilise pas le mot de corporation. En allemand, c'est Körperschaft. Il utilise le mot de personne juridique, qui en français sonne mieux. Ce qui fait que, très souvent, et il me semble que c'est un élément important, les Français ont laissé de côté cette question de la corporation. Ils ont préféré revenir au concept juridique classique de personnalité juridique. Alors, vous pouvez dire, ben, où sont les organes? Pourquoi il y a un sujet juridique? L'État est un sujet, mais il faut que l'État agisse. Et Jelinek a une formule aussi très, je crois, subjective pour décrire cet État. L'État, c'est un sujet de droit, certes, mais c'est aussi ce qu'il appelle une unité agissante. C'est une organisation capable d'agir. Et pour qu'elle puisse agir, il faut évidemment des individus. Et ces individus sont les membres de ce qu'il appelle les organes de l'État. Les organes de l'État vont être les moyens par lesquels l'État agit, et l'État agit par des individus qui sont membres de ces organes d'État. Pour simplifier, on pourrait dire, si on prend le mot organe au sens organique du terme, c'est qu'en français, les pouvoirs publics correspondraient assez bien à ce que Jelinek entend par les organes d'État. Mais ce qui est important chez Jelinek, c'est qu'il considère que ces organes, c'est encore un être abstrait, collectif, ces organes ne peuvent agir que par des individus. Et il a cette formule, l'organe n'est autre chose que l'individu humain qui traduit à l'extérieur la volonté de la personne collective. Et donc, il va essayer de décrire l'État qui agit à travers cette conception qu'on a de l'organe de l'État. Et on trouve un résumé extrêmement fidèle de cette théorie de l'organe dans l'œuvre de Dugy. Dugy, dans l'État, les gouvernants et les agents, a parfaitement résumé cette théorie de l'organe, qui n'est pas une théorie de la représentation, parce qu'il y a l'État et les organes n'ont pas de personnalité juridique. Il n'y a pas de rapport juridique entre les organes et l'État. Les organes représentent l'État. Et ce que va faire Jelinek, c'est d'essayer, et c'est ça le point peut-être le plus difficile, c'est de penser la relation qui peut exister entre l'État, qui est un groupement, et les individus. Comment les deux s'articulent? Et de ce point de vue, il y a une volonté de Jelinek de dire que l'action des individus, il parle toujours de l'action des individus, doit être imputée à l'État. Et voici ce qu'il dit par exemple. Toute société a besoin d'une volonté une. Cette volonté ne peut pas être autre qu'une volonté individuelle humaine. Un individu dont la volonté vaut comme la volonté du groupe doit être considéré, en tant qu'elle se rapporte au groupe, comme instrument de volonté du groupe, comme organe de groupe. Donc, il y a l'idée qu'il n'y a pas de volonté collective, ça n'existe pas, il n'y a que des volontés individuelles, mais le propre de l'État, c'est d'agir par des individus dont la volonté, qui va créer des actes juridiques, va être imputée, non pas à eux en tant qu'individus, mais à l'État. Je résume, mais c'est globalement la thèse que Jelinek développe. Et il va, notamment dans ce chapitre sur les organes de l'État, expliquer qu'il y a eu une évolution, qu'on est passé dans l'histoire des sociétés à des conceptions qu'on appellerait aujourd'hui des sociétés holistes, où toute action d'un individu est rapportée au groupe. On ne considère jamais qu'il y a une action individuelle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de responsabilité individuelle, il n'y a pas de responsabilité pénale individuelle, parce que toute action d'un individu est imputée au groupe lui-même. Et Jelinek explique que, évidemment, les sociétés modernes ont évolué, il est très sociologue, comme vous le savez, et qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de raisonner ainsi, parce qu'on doit considérer que l'individu peut être pris en tant que seul individu et qu'il n'est pas immédiatement, son action n'est pas immédiatement rapportée au groupe. Donc il a une position un peu intermédiaire dans cette affaire. Pour revenir à l'idée de Jelinek, on pourrait la résumer en disant que le propre de l'action individuelle dans un groupe, groupement, c'est le mot allemand Verband, est que celui qui agit au nom du groupe voit sa volonté imputée au groupe lui-même. Juridiquement, l'individu exprime la volonté du groupe. C'est un peu son leitmotiv. Alors, ça c'est donc l'aspect, si vous voulez, le plus théorique sur l'État et les organes de l'État, et donc la volonté d'expliquer de manière non holiste, non organiciste, le rapport qui existe entre l'État et les individus. Mais il y a une difficulté qui est que, dans sa théorie de l'organe, eh bien, Jelinek va être obligé de distinguer les organes de ce qu'il appelle le support d'organe. Donc c'est ma deuxième développement. L'organe et le support de l'organe est la portée institutionnelle de cette distinction. Donc le mot difficile à traduire ici, c'est le mot allemand de organe, Träger. Träger, T-R-A-G-E-R, c'est le porteur. Porteur d'une volonté. Et en français, c'est extrêmement difficile de traduire cette idée. Alors, l'idée de Jelinek, c'est de dire que, on l'a vu, un État sans organes n'est pas possible. Ça serait, dit-il, l'anarchie. L'autre idée, c'est de dire, seuls les individus sont les membres de l'organe, des organes de l'État. D'accord. On a donc cette distinction. Alors, je vais citer le passage où il explique le mieux, en réalité, et là, il y a des gros problèmes de traduction, donc je vous ferai grâce des problèmes de traduction, je vous donnerai ma propre traduction. Voici ce qu'il dit du statut juridique des organes et comment il a introduit le mot d'organe Träger. Et je cite Jelinek. Pour bien connaître le statut juridique des organes de l'État, il faut nettement distinguer entre les organes et les hommes qui en remplissent la fonction. Là, la traduction « les hommes qui en remplissent la fonction », j'ai traduit par une périphrase « organe Träger ». L'organe comme tel n'a pas de personnalité vis-à-vis de l'État. Il n'y a pas deux personnes, la personnalité de l'État et la personnalité de l'organe, ayant l'une avec l'autre certains rapports juridiques. Bien au contraire, l'État et l'organe sont une unité, ça j'ai déjà dit, et il ajoute, l'État ne peut exister que par le moyen de ses organes. Si par la pensée on supprime les organes, il ne faut pas dire qu'il reste un État support de l'organe, c'est le néant juridique. Donc, il pose comme grand principe qu'il y a une entité entre les organes et l'État. Et il ajoute cet autre élément, et c'est ça qui est difficile, c'est que ces organes ne peuvent exister que par des individus qu'il appelle, qu'on a traduit par les supports de l'organe. Mais en réalité, je crois que le problème de traduction ici est important, parce que le mot « organe », en fait, il est ambivalent. Il est difficile à traduire en français, parce qu'il représente ce qu'on a en français par le mot « pouvoir ». Le mot « pouvoir » en français, comme on le sait, on est censé l'enseigner à nos étudiants en première année, si on enseigne bien, évidemment, c'est qu'il a deux sens. Il a le sens d'un pouvoir au sens organique, le Parlement, eh bien, c'est un pouvoir, mais il a aussi un sens fonctionnel, c'est une fonction, et on parle du pouvoir législatif au sens de la fonction législative. Eh bien, c'est la même chose dans la théorie de Jelinek sur l'organe. L'organe, il a ses deux sens. Or, il est évident que quand on traduit, eh bien, il est difficile de traduire support de l'organe, comme ça, de manière universelle, parce que de temps en temps, le support de l'organe, quand on dit organe trigger, ça veut dire l'homme, les hommes qui assurent la fonction qu'exerce l'État. La fonction législative, c'est organe trigger. Donc à chaque fois dans la traduction, il faut comprendre que par organe trigger, on a cette idée d'un titulaire de l'office. On pourrait d'ailleurs traduire organe trigger par titulaire de l'office. Pour y dire, tout ça est bien compliqué. Oui, mais je ne suis pas responsable. J'essaye de simplifier la pensée de Jelinek et j'ai eu du mal parce que je trouve que la traduction est très défectueuse de Fardis, qui est un avocat qui a fait sa vie bien pour l'instant, mais Là, c'est une question très compliquée. Pourquoi j'insiste beaucoup sur cette question de l'organe ? Eh bien, parce que, justement, ça veut dire, ce que veut dire Jelinek, c'est qu'il y a deux choses qui vont en même temps quand un individu exerce une fonction de l'État. Il exerce une fonction de l'État, il est agent de l'État, il est gouvernant, tant qu'il se conduit comme un agent de l'État, c'est-à-dire tant qu'il obéit aux finalités de l'État, tant qu'il respecte la finalité de l'État, tant qu'il se comporte comme un véritable fonctionnaire, si on peut dire. Et puis, il y a l'individu privé, en quelque sorte, qui pourrait, dans l'occasion de ses fonctions, méconnaître cette obligation. Et à ce moment-là, il ne peut plus être considéré comme un organe de l'État parce qu'il va au-delà de sa fonction. Et puis, enfin et surtout, il insiste beaucoup sur quelque chose sur lequel je vais passer, mais qui est très important, c'est que ces fonctionnaires ou ces gérants de l'État, ils ont des droits subjectifs. Jelinek est connu pour la théorie des droits subjectifs, et ils ont des droits subjectifs. Par exemple, un fonctionnaire, il a des droits et des devoirs, et notamment, il a notamment, normalement, une liberté d'opinion politique. Donc, ici, vous avez une partie du statut de l'individu qui est organe de l'État, support de l'organe, qui échappe à la détermination de l'État. Il a des droits indépendamment de l'État, il a des droits subjectifs qui sont tout à fait différents des prérogatives qu'il a en tant que fonctionnaire de l'État. Donc, Jelinek, évidemment, divise, en quelque sorte, ce statut du organträger en deux sphères très différentes, la sphère de l'individu en tant qu'individu qui a des droits subjectifs, et puis l'individu en tant qu'il est représentant de l'État, et à ce moment-là, il a uniquement des devoirs et des droits de l'État. Ce qui me permet d'arriver à ma troisième partie. Presque
même temps. Très bien.
Je coupe. Sur le surgissement de la notion de compétence et sa portée institutionnelle. La compétence, elle surgit justement dans le cas où le fonctionnaire, ou l'agent de l'État, l'organträger, eh bien, il réalise les fins de l'État, il agit selon les fins de l'État, il agit donc en exerçant des prérogatives. Alors, pourquoi Jelinek introduit, on est toujours dans le chapitre sur les organes de l'État, qui est dans le deuxième tome, parce que Jelinek, qui est théoricien des droits subjectifs, public subjectif, se pose la question de savoir si des organes, par exemple le Parlement ou le gouvernement, peuvent avoir des droits subjectifs à faire valoir devant un tribunal. Et sa thèse, contrairement à la thèse dominante, qui est la sienne, qui a de plus en plus de droits subjectifs, il dit non, l'État est une institution objective, les organes de l'État n'ont pas de droits subjectifs à faire valoir. Pour une raison très simple, c'est qu'il dit qu'ils exercent des compétences. Ils exercent des compétences qui leur sont fixées par l'ordre juridique et par la Constitution, et de ce point de vue-là, ils ne peuvent pas prétendre avoir des droits subjectifs. Donc, les conflits de compétences, évidemment, il y a des conflits de compétences, sont des conflits d'ordre objectif qui n'ont pas à être traités comme s'il s'agissait de droits subjectifs. Et c'est sa thèse qu'il développe dans ce passage-là. Voici ce qu'il écrit. Comme l'organe n'a pas de droits propres, mais qu'il a seulement des compétences de l'État, la traduction dit compétences politiques, qui ne veut rien dire. Donc, comme l'organe n'a pas de droit propre, mais qu'il a seulement des compétences de l'État, ces compétences ne sauraient constituer des droits appartenant aux personnalités qui remplissent les fonctions d'organe, le fameux organe träger. Admettre que des compétences de l'État puissent être un droit propre des personnes, c'est déchirer l'unité de l'État, ou affirmer qu'il existe un ordre juridique en dehors et au-dessus de l'État. Et il conclut, une connaissance exacte des choses fait évanouir aussi la doctrine d'un droit propre du monarque au pouvoir étatique. Le pouvoir étatique, moi j'aurais plutôt dit la puissance publique, appartient à l'État, et le monarque comme tel n'est et ne demeure dans l'ordre politique moderne que l'organe suprême de l'État. Fin de citation. Qu'est-ce que ça veut dire, cela ? On va arriver là, peut-être, au point important. Donc, merci de votre patience, parce qu'on arrive au point central, qui est cette théorie de l'institutionnalisation. Ce que veut dire, en fait, Jelinek, avec toute cette théorie complexe de l'État, qui est dotée de compétences, d'organes, qui ont eux-mêmes des compétences, et non pas des droits subjectifs. Ce qu'il veut dire, c'est que l'État moderne n'est pas un État patrimonial. Ce qu'il veut dire ici, c'est qu'il va contester, à l'époque, c'est très polémique, sa thèse donc des juristes allemands qui théorisent l'État comme ayant un droit propre de domination conféré au monarque. Autrement dit, la théorie que combat Jelinek, c'est la théorie de Laban de Gerber, selon laquelle en Allemagne, le monarque, l'empereur, aurait un droit subjectif à la domination, et un droit propre, qui est conféré à une personne, le monarque. Et Jelinek va construire en partie toute cette théorie relativement abstraite de l'État, de l'organe de l'État, pour opposer à cette idée d'un État patrimonial, avec un droit de propriété subjectif en quelque sorte sur le pouvoir, opposer cette conception objectiviste du pouvoir, où il y a uniquement des compétences. Et on le voit bien, la notion d'organe couplée à celle de compétence vient s'opposer à cette idée d'un droit propre, d'un État patrimonial. Donc, selon mon interprétation, peut-être, de même qu'il y a chez Burdeau une opposition entre pouvoir institutionnalisé et pouvoir personnalisé, individualisé, de même il y a chez Jelinek une opposition entre le pouvoir de l'État et les droits subjectifs des personnes qui sont pas, selon lui, des droits objectifs et qu'il faut donc refuser. Et donc, évidemment, c'est une thèse qui va à l'encontre de la conception juridique de la monarchie ou de l'Empire, telle que l'avaient développée les juristes wilhelmiens. Et, autrement dit, le pouvoir institutionnalisé, c'est l'antonyme de l'État patrimonial. Et on voit ça très bien à la fin de ce chapitre, qui est très remarquable, parce que Jelinek était quelqu'un qui avait aussi le sens politique, où il va décrire le problème qu'ont les grands hommes politiques à se satisfaire de cette théorie très abstraite des compétences et à se soumettre en quelque sorte au devoir de respecter leurs compétences. Il estime qu'il y a ici une difficulté, et c'est ce qu'il écrit, le droit public enseigne la nécessité de distinguer l'individu, personne privée, et l'individu en tant que titulaire de la fonction publique, et cette éthique de distinction est difficile à percevoir et à faire respecter par les grands hommes politiques, et ici Bismarck, parce qu'ils ont tendance à percevoir l'État en termes psychologiques. C'est-à-dire qu'ils s'identifient, leur propre personne s'identifie à leur fonction, parce qu'ils ont un prétendu génie politique. Et ils oublient justement cette scission qui doit exister entre l'individu et le titulaire d'une fonction publique, le gouvernant. Et Jelinek explique justement que le juriste, le devoir du juriste de doctrine, c'est de rappeler aux hommes politiques cette nécessité. Et voici ce qu'il écrit. « Ce qui est vrai des grands hommes, l'est à un moindre degré de tous ceux qui remplissent le rôle d'organe de l'État, le fameux organe Taylor. C'est une nécessité psychologique que le fonctionnaire fidèle à ce devoir se sente si étroitement uni à sa fonction qu'il en vient à considérer les prérogatives qu'elle lui confère comme un droit propre. Et il ajoute, les conflits de quelque nature qu'ils soient, conflits de compétences, trouvent souvent leur explication principale dans ces sortes de sentiments. Et donc ce sentiment, selon lui, est erroné, et il va rappeler ce qu'est le rôle du juriste, et il ajoute cette formule, ce n'est pas donc une vaine imagination du juriste, sans importance du point de vue pratique, que la théorie qui s'attache à séparer de la manière la plus nette le droit de l'individu et la compétence de l'organe. Autrement dit, il y a, et dans cette idée de scission, l'idée qu'il y a une sorte d'obligation pour les gouvernants et les agents, de respecter le droit objectif de l'État. Et ça a pour conséquence, et je finirai là-dessus, il finit évidemment sur la question de la continuité du pouvoir, et il va citer le cas anglais, le cas anglais de la Sole Corporation, le cas français. Aussi, dit-il, l'avantage de distinguer ces deux, c'est de permettre justement la permanence du pouvoir, parce que les gouvernants changent, mais le pouvoir demeure identique, parce que le pouvoir est imputé à un être abstrait, l'État, et non pas aux seules personnes qui, elles, peuvent mourir. Et donc, il finit, en quelque sorte, se développant par cette idée-là fondamentale. Je conclue, par une question, en réalité, pourquoi, en réalité, cette parenté qui me semble assez évidente entre Jelinek et Burdeau et entre les doctrines allemandes et les doctrines françaises sont ignorées. Il me semble qu'ici, il y a un problème de traduction. Je pense que les Français ont préféré le mot institution à celui de corporation. Parce qu'ils ont vu dans le mot de corporation peut-être l'empreinte trop marquée de Gierke et ils ont voulu éviter l'impasse, disons, organiciste de Gierke, et ils ont oublié de traduire fidèlement Jelinek, et ils ont préféré utiliser ce mot d'institution, mais une fois qu'on a rétabli cette question de vocabulaire, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une parenté frappante entre ces différentes doctrines qui pensent l'État comme une institution. Merci de votre attention.